6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Marguerite Caton, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Ne me remerciez pas pour cette contribution décisive à votre question du jour du jour.
Et oui, parce qu'aujourd'hui aussi, on prend la route dans la question du jour, direction l'A13, où les services de la direction des routes d'Île-de-France sont à pied d'œuvre pour réparer la fissure apparue la semaine dernière au milieu de la chaussée. Depuis vendredi soir, cette petite portion d'autoroute longue d'une dizaine de kilomètres entre Paris et Vaucresson est fermée. Un événement rare qui interroge sur la fiabilité du réseau. Bonjour Pierre Dumas.
Bonjour.
Vous êtes chargé de projet à l'Observatoire National de la Route. Que sait-on pour commencer de cet incident sur la 13 ?
Alors moi je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup sur cet incident. Toutefois, quelque chose qu'on peut noter, c'est tout d'abord que c'est un événement assez exceptionnel. Tous les réseaux routiers français sont surveillés par leur gestionnaire de façon très régulière et ce type d'événement apparaît assez exceptionnel. De ce que j'ai cru comprendre pour le moment, il pourrait être lié à des glissements de terrain, donc qui se dérouleraient sous la chaussée et qui n'auraient pas pu être nécessairement perçus ou prévus en amont.
Et donc cette portion d'autoroute va rester fermée jusqu'au 30 avril inclus, on essaiera d'en savoir plus peut-être. Il faut préciser qu'il s'agit d'une autoroute gérée par l'État, qui n'a pas fait l'objet d'une concession. Alors un mot de comparaison, les autoroutes concédées sont-elles en bon état, voire peut-être en meilleur état, de votre point de vue Pierre Dumas ?
Alors encore une fois, nous à l'Observatoire de la route, on n'a pas beaucoup d'informations sur les autoroutes concédées. Toutefois, dans les contrats de concession qui régissent la gestion et la maintenance des autoroutes concédées, des niveaux de service sont fixés auxquels les sociétés doivent se tenir pour maintenir du coup un bon état. D'autant que lorsque les concessions se termineront, les gestionnaires devront rendre l'infrastructure dans un état quasi neuf et du coup elles entretiennent régulièrement leur réseau. Donc on peut imaginer que ce sont en effet des réseaux qui sont en bon état.
Si on revient à la gestion publique, comment s'organise la surveillance matérielle de la chaussée pour le réseau national d'abord ?
Alors pour le réseau national et pour les autres réseaux qui sont d'ailleurs gérés par les collectivités, il y a globalement deux types de surveillance. Une surveillance qu'on dit visuelle, où on va avoir des agents du gestionnaire qui vont aller patrouiller les routes, qui vont aller observer l'infrastructure, les équipements, pour savoir s'il y a des défauts, pour savoir s'il y a des soucis. Observation visuelle, on a des méthodes plus automatisées qui vont être faites par des machines où là on va avoir des camionnettes sur lesquelles on a des radars qui sont fixés et qui vont au fil de l'avancée de la camionnette sur la route balayer la chaussée pour percevoir les défauts, les éventuelles fissures, tout ce qui pourrait nuire à la qualité de l'infrastructure et faire un relevé global. Et c'est à partir de ces deux méthodes que le gestionnaire va pouvoir qualifier l'état de sa route et ensuite mettre en place sa stratégie de gestion.
Et tous les gestionnaires ont les moyens, je pose la question, parce qu'il y a le réseau national qui est géré directement par l'État, mais en fait c'est que 12 000 km sur le 1 100 000 km de route en France. La plus grande partie du réseau dépend des communes, 700 000 km. Est-ce que les petites communes ont ces véhicules automatisés qui permettent de voir précisément l'état des routes ?
Alors justement, c'est une des difficultés parce que ce sont des campagnes qui peuvent coûter assez cher. Et puis, c'est aussi c'est des campagnes qui ont besoin d'une certaine technicité que n'ont pas forcément les plus petites communes, les plus petites intercommunalités. Donc c'est vrai que dans beaucoup de cas, pour cette grande partie du réseau qui est le réseau lié au bloc communal, enfin géré par le bloc communal, on va avoir souvent des méthodes plus rustiques. Donc cette observation visuelle dont je parlais pour qualifier l'état de l'infrastructure.
Et cette observation visuelle, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une expertise importante pour la mener ou il s'agit, pardon de le dire comme ça, mais un peu de compter les nids de poules ?
Alors, je pense que c'est une bonne base de pouvoir compter les nids de poules. Ensuite, il y a une technicité et une expertise qui s'acquièrent au gré des formations, mais aussi au gré de l'expérience. Et dans beaucoup de collectivités, c'est en fait le savoir-faire des agents, leur œil avisé, qui saura repérer ou non les défauts et qui pourra faire remonter aux gestionnaires les, les soucis qu'il pourrait y avoir.
J'ai lu que l'Europe avait développé un projet de capteur embarqué sur des véhicules pour détecter les dégradations des routes, couplé à une géolocalisation satellitaire. Ça permettrait d'avoir une cartographie numérique complète. Bon, je comprends que c'est assez loin des moyens employés dans la plupart des communes. Après la détection vient la question de l'entretien. Pierre Dumas, ce qu'on observe, c'est un sous-investissement historique avec des dépenses qui ont fortement diminué à partir de 2012. Alors, on le répète beaucoup, en 7 ans, entre 2012 et 2019, la France a dégringolé de la première place à la 18e place au classement international de la qualité des infrastructures routières. Est-ce qu'aujourd'hui, la barre est redressée ?
Alors, pardon, moi j'aurais tendance à dire que ce qu'on observe dans le rapport, c'est qu'effectivement, on a eu jusqu'au début des années 2000 une baisse d'investissement assez importante dans la maintenance de l'infrastructure. Toutefois, depuis 2015-2016, on observe que les dépenses d'investissement sont reparties à la hausse, ce qui nous montre que les gestionnaires ont pris conscience de l'importance de cette infrastructure et des services qu'elle rend aux populations. Et donc, on voit qu'il y a un travail de rattrapage qui est en cours. Mais malheureusement, le prix des travaux étant directement lié au prix du pétrole, ce travail de rattrapage est, entre guillemets, compensé par le fait que les travaux coûtent plus cher et que pour un même volume de dépenses, on peut faire moins de travaux.
De quoi en date cette prise de conscience ? Enfin, plutôt, qu'est-ce qui l'a déclenché ? On est avant l'effondrement du pont Morandi à Gênes en 2018.
Oui, je pense que le mouvement inverse de relance des investissements date d'un peu avant cet événement. Mais effectivement, je pense que l'effondrement du pont Morandi a été une alerte supplémentaire sur l'importance de l'entretien des infrastructures, parce que c'est vrai que la route, on a tendance à se dire que c'est quelque chose de solide, quelque chose qui va tenir dans la durée, ce qui est vrai, mais comme tout patrimoine, il a besoin d'un entretien régulier, et plus on tarde à le faire, plus il va coûter cher à terme.
Et vous le dites, ça nécessite un entretien qui est de plus en plus important, puisque le trafic routier augmente, et puis les épisodes climatiques extrêmes, sécheresse, forte pluie, ça accélère encore l'usure des routes, et l'État a tendance un peu à déléguer, donc aux communes, aux départements, on l'a vu. Récemment, en 2022, il a décidé que les métropoles et les régions pouvaient aussi prendre la main sur les routes. Est-ce que cet éparpillement des responsabilités n'est pas préjudiciable à la bonne qualité de l'entretien ?
On peut effectivement imaginer que cette décentralisation finalement des compétences de l'État vers les collectivités a eu un impact assez négatif sur la capacité de gestion des collectivités. Faut savoir que la décentralisation, c'est quelque chose qui a commencé dans les années 80, il y a eu plusieurs vagues, et en fait, effectivement, aujourd'hui, les départements, les intercommunalités, les communes sont complètement gestionnaires de leur infrastructure, et même si elles ont reçu des compensations financières par rapport à ce que faisait l'État à l'époque, aujourd'hui, les enjeux changent, et il n'y a pas forcément un équilibrage financier derrière qui permet de compenser.
Merci beaucoup Pierre Dumas. Je rappelle que vous êtes chef de projet à l'Observatoire National de la Route. Merci.
Merci.